podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des dossiers d'aux frontières des séries. Il était une fois des producteurs conscients du succès cinématographique des reboots de Disney, Alice au Pays des Merveilles, Maléfique, Blanche-Neige et le Chasseur. Attirés par l'appât du gain, ils décident de surfer sur la vague pour en créer une série. Il était une fois un monde, et même plus précisément une ville, dans laquelle tous les personnages de contes de fées se retrouvent, se croisent, s'aiment, se détestent, se lancent des sortilèges. Il était une fois Once Upon a Time. Cette série américaine diffusée sur le réseau ABC a vu le jour en 2011 et compte déjà 4 saisons à son actif et plus de 60 épisodes. Créée par le tandem de scénaristes Edward Kitsis et Adam Horowitz, qui avait déjà officié sur Lost, la série fait également appel à Jane Espenson à la production. Cette dernière est connue pour avoir tenu les manettes de Buffy contre les vampires avec Josh Whedon. Au casting de Once Upon a Time, l'on retrouve une palette d'acteurs connus dans le milieu télévisuel. Jennifer Morrison, le médecin Alison Cameron dans Doctor House. Elle a aussi joué dans Oh, I Met Your Mother. Jennifer Goodwin, elle a fait ses gammes en tant que Margine dans Big Love. Joshua Dallas, apparu dans Les Experts ou Doctor Who. Lana Paria, vue dans Boomtown et dans la saison 2 de 24 heures chrono. Enfin, Robert Carlyle, acteur mythique de Trainspotting et de The Full Monty. En France, la série est diffusée sur M6 depuis 2012 et rencontre un joli succès. Preuve supplémentaire que les contes de fées restent indémodables. La série fait preuve également d'une belle stabilité dans ses audiences américaines. Même si, comme la grande majorité des séries, elle s'érode au fil des saisons, de 10 millions en moyenne pendant la première saison à 8 millions dans la saison 4, Once Upon a Time se maintient à un niveau très satisfaisant pour la chaîne et les annonceurs. La série s'est surtout créée une fanbase importante qui ne raterait un épisode pour rien au monde. Une série culte serait-elle en train de voir le jour? C'est ce que Nathanaël Picasse a tenté de savoir. Bonjour Nat.
Bonjour Alex.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, Sarah Sepulcre, bonjour.
Bonjour Jean-Rosfort Belmar, c'est quoi cette voix de conte?
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Il était une fois une série qui va marquer son époque. C'est en tout cas une série très ancrée dans son époque, Nat.
Exactement, parce que comme tu l'as dit, c'est une série qui rebondit assez judicieusement évidemment sur les succès cinématographiques de ces dernières années. Des succès qui pour moi d'ailleurs sont de grands mystères, hein, parce que la qualité des films incriminés extraordinairement variable. On va pas ressortir les gros dossiers.
Oui, mais il y a des robes.
Oui, mais enfin, quand même. En tout cas, ça répond à une recherche et à une demande du public, clairement, qui d'une part recherche peut-être un peu de magie dans ce monde, hein, suite à la crise financière, certainement, et d'autre part qui remet aussi au goût du jour des personnages qui nous ont fait rêver pendant toute notre enfance, avec aussi les effets spéciaux qui permettent maintenant beaucoup plus d'extravagance qu'à l'époque et qui permettent de sauter l'étape des dessins animés.
Puis il y a ce côté très sympathique qu'on avait déjà dans le Dixième Royaume, où tous les contes en fait sont imbriqués, et on se rend compte qu'il y a un rapport entre tous les personnages des contes qu'on a connus dans notre enfance.
Voilà.
C'est un petit côté merveilleux.
On a donc un fan autour de la table.
Ce qui a un petit côté merveilleux au début et qui devient complètement indigeste dans cette série à la fin.
Tout à fait. Donc je ne suis pas totalement fan.
Ah, d'accord.
Donc non, mais en tout cas, Once Upon a Time remplit parfaitement ce contrat-là de cette recherche du public, ça c'est sûr, puisque c'est la synthèse parfaite de cette demande en créant une histoire taillée sur mesure. Alors le pitch, Blanche-Neige, la méchante reine, Prince Charmant, le capitaine Crochet, le Chaperon Rouge, voilà, tous ces personnages de contes de fées existent réellement, ou du moins ils ont pris vie dans le monde réel. C'est ainsi que la série nous plonge dans le quotidien de la ville de Storybrook, une ville fictive aux États-Unis dans laquelle tous les habitants sont issus des contes et des légendes. Mais en fait, ceux-ci, et c'est surtout vrai dans la première saison, ont totalement oublié leur passé et vivent une vie bien rangée. C'est ainsi que Blanche-Neige est une institutrice d'école primaire, Jiminy Cricket est psy, la méchante reine est la mère de la ville, Rumpelstiltskin est brocanteur, le Chaperon Rouge est une serveuse dans un bar, etc., etc. Alors, pourquoi ne sont-ils plus dans leur monde merveilleux des contes et légendes? Eh bien, il faut se tourner vers Madame le maire pour avoir un élément de réponse, parce que lors du prologue de la série, Regina, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, la méchante reine, jalouse de l'amour de Blanche-Neige et du prince charmant, débarque lors de leur mariage et leur annonce qu'elle va lancer une malédiction. Le couple royal a quand même le temps, entre-temps, de pondre un enfant, quand même, de l'envoyer dans un monde parallèle, le nôtre en l'occurrence, avant que le sortilège, la malédiction ne tombe sur tout le monde et emmène tout le monde dans la ville de Storybrooke, où les cartes sont redistribuées, parce qu'alors ils ont totalement oublié qui ils étaient, mais ils sont aussi mis dans des rôles différents, évidemment. À part Regina, qui passe du statut de reine à celle de mère omnipotente, la plupart après ont des rôles totalement différents, comme évidemment le sortilège a effacé leur mémoire. Bon, ils sont dans une vie bien rangée, un mécanisme bien huilé, et c'est là que Blanche-Neige s'appelle Marie-Margaret Blanchard, en plus ils l'ont appelée Marie-Margaret Blanchard pour la petite allusion à Blanche-Neige. Elle n'est plus mariée après un charmant, au contraire, lui est marié avec une autre femme. Enfin voilà, donc on est sur des cartes totalement redistribuées.
Ils ont l'air aussi de vivre dans une ville qui ne connaît pas le changement de temps.
Exactement. Oui, voilà. Elle est figée
bloqués,
dans le temps.
Oui.
Elle est totalement figée dans le temps, d'ailleurs, cette ville.
Mais en fait, tout le monde a la mémoire effacée ou Regina, elle a encore...
Elle a encore la mémoire. Ah. Elle a encore la mémoire. C'est la seule qui sait, effectivement. Et c'est la seule qui a encore un petit peu de pouvoir magique. Parce que c'est un monde où il n'y a plus de pouvoir magique non plus. Sauf elle, évidemment.
Et elle a un pommier dans son jardin, évidemment.
Comme tu disais, effectivement, le temps s'est arrêté et c'est d'ailleurs symbolisé par le clocher qui se trouve au-dessus de la bibliothèque du village. Le clocher, en fait, les aiguilles ne fonctionnent pas.
Ah, c'est retour vers le futur.
Ah là, exactement. Donc, la méchante reine semble avoir gagné son pari à ce détail près. C'est dommage parce qu'en fait, elle va foutre en l'air elle-même sa propre malédiction. C'est qu'elle a adopté un jeune garçon qui est issu du monde réel. Parce que la plupart du temps, les gens passent par Storybrooke, mais ne s'y arrêtent pas. Ils sont vraiment en vase clos, hein, vraiment les personnages de ces mondes de fées. Mais elle décide quand même d'adopter un petit garçon qui ne vient pas du monde des contes de fées. Et celui-ci grandit et il a comme maîtresse Marie-Margaret, Blanche-Neige donc, qui lui remet un livre de contes de fées, et celui-ci ne peut s'empêcher de constater des similitudes entre les personnages décrits dans le livre et ceux qu'il côtoie au quotidien. Donc il est très fort le gamin, il se dit « Bon sang, mais c'est bien sûr, ce que je lis dans ce livre-là, en fait, c'est la vérité, et c'est de là d'où viennent tous les personnages. » Donc en fait, il décide de retrouver sa mère biologique. Alors la série n'expliquera jamais, enfin peut-être qu'elle expliquera au cours des saisons qui sont encore à venir, mais en tout cas pour l'instant elle n'explique pas comment il va réussir ce tour de force aussi de retrouver sa mère biologique, je sais pas, on peut aller sur internet, on tape quelque chose et on peut retrouver sa mère, j'en sais rien, enfin en tout cas il a réussi à la retrouver et il l'a fait venir en fait dans la ville, et à partir du moment où sa mère biologique rentre dans la ville, les aiguilles de l'horloge se remettent en route.
Est-ce que sa mère ne serait pas l'enfant caché de Blanche-Neige et de Prince Charmant ?
Voilà.
Et donc l'enfant que Regina a adopté, c'est le petit-fils de...
Mais arrêtez de nous spoiler comme ça.
Oui, on devrait mettre un gros alerte spoil parce qu'il y en aura, quelques-uns. Mais...
Ça va pas très loin. Là, on est au milieu de la saison 1, hein, je pense.
Voilà, voilà. C'est assez vite défloré au niveau de l'intrigue.
Mais on le comprend très très vite de toute façon.
On le comprend très très vite, effectivement.
C'est pas subtil.
Non. Pas pour dessous, non.
Vous n'avez pas toujours été un criquet.
Un criquet ? Ah oui, tu dis ça parce que tu crois que je suis Jiminy Cricket. D'où te vient cette idée ? Pourquoi tu crois ça ?
Mais parce que c'est ce que vous êtes.
Et qu'est-ce que je suis ?
Vous êtes une conscience. Vous nous montrez ce qui est bien ou mal.
Alors, tous les criquets qu'il y a à Storybrooke étaient des gens à un moment donné.
Il n'y a pas de criquets ici. Écoutez.
Il est peut-être encore trop tôt.
Il n'y a jamais eu de criquets. Vous ne l'aviez pas remarqué, c'est tout.
Et tu crois que ça prouve qu'il y a... Un sortilège.
Ouais, mais ça, c'est pas suffisant. Je cherche d'autres preuves.
Je t'ai déjà posé la question et tu m'as dit que tu voulais réfléchir un peu. Pourquoi trouves-tu si important que tout ça existe réellement ?
Parce que... C'est réel.
Bon, d'accord. J'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu as dit. Il y a quelque chose enfoui là-dessous.
Écoute, c'est étonnant cette remarque sur la subtilité ou votre manière d'amener les choses. J'ai pas du tout vu la série, mais j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi et des gens qui avaient l'air de dire que c'était une bonne série.
Mais c'est l'impression que j'ai eue aussi lorsque j'ai vu la première saison, parce que c'est une première saison qui tourne principalement autour de cette fameuse malédiction initiale, et tous les plaisirs des téléspectateurs est de deviner quel personnage de conte de fées est en réalité chaque habitant de Storybrooke. Et la série joue d'ailleurs habilement sur ce plan en multipliant les clins d'œil à ce sujet, parce que même s'ils ont perdu la mémoire, les personnages sont poussés par leur nature profonde à reproduire les mêmes gestes. Donc Marie-Margaret et David Nolan, même s'ils ne se souviennent plus, sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Évidemment normal, c'est Blanche-Neige et Charmant, donc ils sont faits pour être ensemble. Comme bien sûr dans la vie réelle, ce dernier est marié à une autre femme, c'est un petit peu compliqué. Madame le maire cultive une passion pour les pommes, puisque c'est la reine de Blanche-Neige. On a aussi la femme qui tient l'unique bar de la ville, qui est une petite fille qui s'habille souvent en rouge.
Oui.
Et dont l'aura sexuelle attire bien sur ces messieurs, d'ailleurs. Donc voilà. Et puis cet homme toujours grognon sinon ce serait pas grincheux par hasard. Enfin voilà, on a plein de petites références comme ça. On a aussi Madame le Maire qui aime beaucoup les miroirs aussi. Il y en a beaucoup chez elle évidemment. Et c'est vrai que c'est le petit clin d'œil sympa effectivement de la série, c'est de repérer tous ces petits clins d'œil, se dire ah oui ça vient de ce conte là ou c'est une référence à ce personnage de conte là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils prennent le contre-pied du principe même des contes de fées. À la base, les contes de fées, c'est quand même des histoires qui sont censées nous apprendre quelque chose, des principes, des valeurs, en les mettant en scène dans quelque chose d'assez magique. Et ici, c'est l'inverse. On est dans la vie réelle, mais on retrace à travers cette vie réelle où se trouvent les personnages des contes de fées. Ce qui est sympa aussi dans la première saison, c'est qu'on retrace aussi beaucoup leur passé. Donc, on a l'histoire qui se passe au présent et en parallèle, toujours un flashback de ce qui se passait quand ils étaient encore des personnages de contes de fées. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment une réinterprétation des contes. C'est là qu'on apprend que Blanche-Neige n'est pas une simple greluche comme on pouvait avoir comme image d'elle, mais c'est plutôt une femme active, recherchée, combative, et donc qui lui donne quand même un peu plus d'ampleur, évidemment, que la greluche qui attend d'être réveillée par son prince charmant après avoir croqué une bête pomme.
C'est joliment résumé.
Oui, mais c'est ça, parce que c'est quand même un des personnages les féminins les plus monstrueux, au niveau des droits des femmes, en tout cas, enfin, la plupart des contes d'ailleurs, hein, c'est sois belle, sois gentille, tais-toi, fais le ménage, et quelque chose de bien va t'arriver à un moment, on ne sait pas.
Là, au moins, quelque chose de bien, c'est un prince charmant.
Voilà. Exactement, en plus, et tu deviendras riche et tout le monde t'aimera, etc., etc., etc. Il y a quand même une déconstruction à ce niveau-là, effectivement, des contes, qui est assez sympa. On remarque aussi qu'au niveau des décors et de la mise en scène et de certains effets spéciaux, ils ont quand même mis les petits plats dans les grands. On a quand même Emma, donc, qui est la fille de Blanche-Neige et de Prince Charmant, qui combat un dragon à un moment, et ça va. On voit effectivement qu'il y a des fonds verts, des écrans verts derrière, mais allez, ça reste sympa, on fait abstraction et on se laisse porter effectivement par la magie.
La reconstitution aussi de l'époque où ils sont dans des grands châteaux de pierre, on voit très bien qu'il y a un côté très numérique derrière, mais ça conserve quand même son charme, je trouve.
Complètement, et donc effectivement, on regarde cette première saison avec une âme d'enfant qui est pas désagréable, et la première saison est assez bien construite, qui fait qu'on arrive à maintenir le suspense et le développement des personnages assez bien pendant toute cette saison, avec Marie, Margaret et David qui se rapprochent petit à petit, sans en faire trop non plus, avec Emma qui commence à fouiller dans le passé des personnages, alors que son fils n'arrête pas de lui dire « mais si, ce sont des personnages de conte, elle ne le croit pas », et elle va finir par le croire évidemment, parce que en fait c'est son fils qui va se retrouver être empoisonné par une tarte aux pommes, en l'occurrence, que la mère va faire pour elle. C'est vraiment très sympa, et jusque-là, franchement, j'avais passé un bon moment en regardant cette série.
Mais
les choses se sont gâtées à la fin de cette saison.
Merci beaucoup. Et les noms, s'il te plaît, de ceux à qui ces trésors appartenaient? À fil d'or, parce que tu as bien volé. Merci, tu peux y aller. Mais tu voudrais autre chose, n'est-ce pas? Une petite goutte de magie?
Je suis prisonnier de cette damnée roulotte. Je veux être libre, je veux être quelqu'un d'autre, mais quelque chose m'empêche de partir.
Quelque chose ou quelqu'un?
Ce sont mes parents, au fait.
Alors j'ai exactement ce que tu cherches. Ceci est ta liberté. Asperge-les ou mélange-le. Verse-le dans leur thé ou leur potage. Et ça fera effet. Ah! Mais tu n'as rien à me donner en contrepartie. J'ai une idée. Quand la potion aura fait son travail, laisse-les où ils seront et moi je passerai les prendre. Ce sera ma rétribution.
Que vont-ils devenir?
N'aie aucune crainte. Ils seront entre de bonnes mains. Et toi, tu seras libre.
Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette saison, hein? C'est que la malédiction est levée et donc ils se rappellent tous qu'ils étaient des personnages de contes de fées.
Ça devient soap opéra.
Oui, effectivement, ça devient soap opéra. C'est ça le problème. C'est ça le problème parce que la malédiction est levée. Donc, en fait, tout le pitch et l'intérêt de la série sont totalement dissous. à partir du moment où il n'y a plus cette malédiction. Et donc la série commence à piétiner totalement. On voit que les scénaristes ne savent pas quelle direction prendre.
Mais ils sont quand même restés dans le monde parallèle. Ils ne sont pas retournés dans leur monde de...
C'est ça aussi le problème, effectivement. Ah, oui. C'est que dans le questionnement où est-ce qu'on va maintenant avec notre série, parce que maintenant tout le monde se souvient qu'ils sont des personnages de contes de fées, ils n'ont pas l'air de se dire bah, on va essayer de retourner à notre royaume enchanté d'antan. Oui. Sauf par contre Emma qui est envoyée dans le début de la saison 2. Pouf, ouais, effectivement une malédiction, une deuxième malédiction. Mmh. Elle pas de chance, ça tombe sur elle. Elle est renvoyée là-bas, elle fait la connaissance de Mulan d'ailleurs.
La pauvre.
Oh là là, ça a l'air d'être rentré au forceps cette histoire. Ah,
complètement. Et alors là, voilà, c'est le début de la saison 2. Elle tente de revenir. Il y a certains personnages qui veulent y retourner. Et on ne sait pas où ça va. On voit que les personnages marchent, ne savent pas trop où aller, se posent des questions. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. Alors, les scénaristes rapatrient Emma de force, hein, évidemment. On installe ensuite une nouvelle méchante qui est la mère de la reine.
Ouh, je sens que c'est très psychanalytique tout ça. C'est toujours les mères.
Et attention, qui s'appelle Cora et qui est la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles.
Oh. Ah, donc la reine de cœur est la mère de la méchante reine. Non, Maléfique, c'est encore une autre.
Mmh. Oui, c'est encore une autre.
Maléfique, c'est la Belle au Bois Dormant.
Oui. Ouh là là,
ne mélangeons pas les contes, s'il te plaît. On les mélange déjà, c'est comme ça.
C'est ça le problème de cette série, c'est qu'au bout d'un moment, au début, on se dit « Ah, c'est sympa, ça mélange tous les contes », et au bout d'un moment, on dit « Ah, c'est sympa, ça mélange tous les contes ». C'est un peu ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, tous les personnages ont l'air tellement imbriqués les uns dans les autres. Rumpelstiltskin, en fait, est la bête de La Belle et la Bête et donc épouse la belle. Enfin voilà, il y a des trucs où d'un moment on se dit non, c'est plus possible quoi, vous êtes en train de saccager les contes de mon enfance quoi.
Et on a l'impression que parfois certains contes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres sont mélangés, l'histoire de ramener le capitaine Crochet dans cette histoire semble complètement bizarre.
Et c'est totalement au forceps en fait, parce qu'en fait Rumpelstiltskin est aussi le crocodile de Neverland bien sûr. En fait, il est le méchant de tous les contes, en fait, finalement. Aussi.
D'accord, il y a un seul méchant, mais il se transforme.
Voilà.
D'accord.
Et en fait, parce que tous les personnages de contes ont fait un moment appel à lui, et comme en général, il ne donne rien au niveau magique sans avoir quelque chose en retour, en fait, à chaque fois, tout le monde lui est redevable, et c'est toujours contre leurs intérêts la plupart du temps.
Et puis, il y a un moment, il sniffe de la méthamphétamine bleue.
C'est un peu ça presque. Et on sent vraiment que les producteurs à chaque fois se disent bon, là ça fonctionne pas pendant quelques épisodes dans cette direction, on va changer de direction. Donc bon, Cora, c'était une mauvaise idée, bon, on va l'éliminer. D'ailleurs, c'est Blanche-Neige qui tue Cora. Donc,
le spoil.
Oui. Oh, bon, c'est la saison 2, tant pis. On avait dit qu'il y aurait des spoils. Donc maintenant, on fait introduire de nouveaux personnages mystérieux qui viennent voler les pouvoirs magiques, en fait, des personnages de Storybook. Parce que maintenant,
c'est
les
mange-morts de Harry Potter.
Oui, c'est à ça que je pensais.
Exactement, mais surtout ce sont des personnages mystérieux, le passé est pas très clair, etc., qui se trouvent en plus être des petits amis de héros qui arrivent, et on se dit, les coïncidences sont énormes en fait dans la série.
C'est J.J. Abrams qui l'a écrite ou quoi?
C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont fait Lost. Donc,
ah oui, voilà, c'est ça, voilà. Il fallait commencer par dire ça.
Voilà.
Ça, je sais pas si ça aide le mot qui compte.
Non, effectivement. Surtout qu'en plus, donc, ces personnages mystérieux, en fait, on se rend compte qu'ils sont guidés par Peter Pan. Et Peter Pan devient... Oui, c'est Peter Pan qui est un méchant aussi dans la saison 3. On atteint des sommets dans la nullité dans le début de la saison 3. C'est que on a Peter Pan qui est le méchant pendant 12 épisodes et on se retrouve tous à Neverland. Et donc, en fait, ils marchent tous dans la forêt pendant 12 épisodes. Et à un moment,
ça, c'est ressorti d'un scénario de Lost, ça. Oui. Ça peut pas être autrement.
C'est la saison 1 de Lost.
Non, la 2, quand ils sont dans la cave, parce qu'ils appuient sur une touche.
Parce qu'en plus, dans Lost, ils marchent dans la forêt vers un bateau.
Voilà.
Véridique.
L'acteur qui joue Peter Pan est très 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 mauvais. Donc on fronce des sourcils la plupart du temps, on les fait bouger dans tous les sens et on se rend compte qu'attention, spoiler, Peter Pan est en fait le père de Rumpelstiltskin.
Donc le père du crocodile qui a bouffé la main de Crochet. Je suis toujours là.
Oui, c'est ça, voilà.
Et donc d'autres méchants aussi. Voilà.
Oui, parce qu'en fait, c'est lui qui a aussi formé Cora, c'est lui qui a formé la reine à devenir une méchante sorcière, etc. Et donc, je suis certain que les gens qui sont en train de nous écouter ne comprennent plus rien à l'histoire, et c'est bien ça le problème de cette série, c'est qu'on ne comprend plus rien à l'histoire au bout d'un moment.
Et à un moment, il retourne à Genoa City, ou bien...
Non, il retourne à Storybrooke avec une nouvelle malédiction.
C'était pathétique. Et les gens continuent à suivre ce truc.
Voilà, exactement.
Oui, et quand même, 8 millions.
Je dois quand même dire qu'il y a quand même une petite parenthèse dorée dans la saison 3. Parce qu'en fait, maintenant, ils ont décidé d'admettre un grand méchant pour la moitié de chaque saison. Donc, on avait Peter Pan dans le début de la saison 3. Et la fin de la saison 3, le méchant a un peu d'envergure et la série redevient potable en réinstallant les personnages dans Storybrook avec une nouvelle malédiction. Donc on réefface un peu, on met un peu les compteurs à zéro. Et c'est la sorcière du pays d'Oz qui apparaît, qui se trouve être la sœur de la méchante reine, évidemment. Donc on continue bien sûr dans les coïncidences absolues.
Et où se positionne la Reine des Neiges là-dedans? Parce que j'ai vu qu'il l'avait fait apparaître.
La Reine des
Neiges. On peut pas ne pas en parler.
La Reine des Neiges apparaît à la fin de la saison 3 lorsqu'il se défend de la sorcière du pays d'Oz. Elle est présentée au début comme, on se demande est-ce que ça va être la méchante? Non, on rajoute une autre Reine des Neiges qui est encore plus méchante. La saison 4 patine, sans mauvais jeu de mots, complètement dans la semoule.
C'est parce que c'est l'hiver. Winter voilà. Is coming.
Donc ce qui pose problème dans cette série, c'est la multiplication des malédictions les unes sur les autres, et en fait c'est toujours le même groupe de personnages qui se jettent des malédictions. Donc on se dit qu'il y a toute une population dans cette ville qui subit les malédictions en fait de cette famille. On a envie de leur dire maintenant arrêtez, ça suffit, quoi, vous êtes en train de nous faire subir toutes vos malédictions à la con. Multiplication des vengeances, parce qu'évidemment oui mais tu as tué un jour ma mère, oui mais en fait tu es tué ma sœur et tu es ceci et cela, enfin voilà, ça devient un peu n'importe quoi. On a une complexité assourdissante des liens familiaux, les flashbacks après qui révèlent le passé trouble des héros qui, à force de s'empiler les uns sur les autres, ne sont plus cohérents non plus et ça rend le tout complètement indigeste. Et puis, la série ne sait quoi faire de ses anciens méchants parce qu'on a la reine, la méchante reine qui est jouée par Lana Parida, qui est un personnage assez sympathique, en fait, finalement, qui est assez sympathique à regarder évoluer, évidemment. Et je pense que c'est un des personnages préférés des téléspectateurs. Et donc, les scénaristes sont vraiment en train de se demander, bon, à la base, on avait fait d'elle la grande méchante de l'histoire. Maintenant, on peut pas la tuer parce que les spectateurs l'adorent. On peut pas la faire transformer en tant que gentille facilement parce qu'alors elle perd après son piquant. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Et on a carrément l'actrice qui pratiquement pendant la saison dit « Mon auteur, il serait bien temps qu'il change la fin de mon histoire parce que j'aimerais bien devenir gentille, etc. » Donc on a pratiquement la série qui aussi une réunion de scénaristes autour de la table en train de se poser la question « Qu'est-ce qu'on va faire de nos personnages plus tard ?» Un peu ça, le
et vu le succès, on risque encore d'avoir quelques saisons, ce truc.
Oui, je pense qu'on va encore en bouffer.
Moi, je vous préviens, s'ils transforment Mary Poppins en mère de Peter Pan et qui est la grande méchante qui tire les ficelles, je me fâche tout rouge.
Non, mais avant Mary Poppins, c'est la petite sirène et tous les contes orientaux.
La petite
donc
sirène
va...
apparaît hein, déjà. Oui, voilà. Oui.
C'est une incendiaire. Alors du coup, ils font un lien avec Rescue Me.
Ah non, pitié.
Non, elle est toujours à la recherche de son prince charmant qui a disparu et elle passe son temps à nager, à sortir de l'eau et d'amener les personnages d'un monde à l'autre grâce genre à ne sait quel pouvoir magique à travers l'eau. Voilà, on a des facilités scénaristiques aussi assez énormes.
Et donc si je comprends bien, si je suis bien la théorie du truc, le personnage méchant dont j'ai oublié le nom,
Rumpelstiltskin,
c'est aussi Ursula dans La Petite Sirène.
Non, ça non, apparemment, enfin ça n'a pas encore été développé. Il y a Ursula qui apparaît à un moment qui effectivement, mais
après c'est quand même une grande méchante très charismatique qui pourrait aussi remplacer Regina.
Elle a juste un mini caméo à un moment. A priori, ce n'est pas Rumpelstiltskin, mais sait-on jamais.
Moi, j'étais très déçu, par exemple, de la représentation qu'ils ont faite de Maléfique.
Oui, qui a été expédiée complètement, alors que c'est quand même un des personnages...
C'est un personnage super important des mythologies des contes. Et je me dis, mais attends, c'est une gentille et tendre qui a une grosse dépression nerveuse, et c'est tout, quoi.
Ouais,
c'est pour ça qu'elle se fâche contre la Belle et la Bête dormante.
En même temps, quand t'as vu ce qu'ils ont fait de Maléfique avec Angelina Jolie...
Oui.
Donc, en clair, c'est des scénaristes qui sont sortis de l'école, quoi.
C'est des scénaristes qui auraient dû laisser en fait finalement ces contes de fées bien tranquilles et arrêter de les mettre au goût du jour parce que vraiment les contes de fées version soap opéra c'est pas possible.
Bon bah c'est là-dessus qu'on va refermer cette émission. Donc on vous conseille, si j'ai bien compris, la saison 1, n'allez peut-être pas plus loin. On va éviter le spin-off aussi, ça je crois que ce sera l'objet peut-être d'un Craignos bientôt puisqu'il y a eu un spin-off autour d'Alice au Pays des Merveilles qui a été une vraie catastrophe. On se retrouve très vite pour un prochain dossier de Frontières des séries.
C'est pas comme ça que tu dois finir. Quoi? Normalement c'est et vécu heureux et tête non.
Retrouvez aux Frontières des séries sur le web www.afds.tv.